I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme d'habitude Thibaut qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'une année de ciné en particulier avec un invité. Et ce mois-ci, mon invité est auteur, journaliste, réalisateur de documentaires. Vous avez pu le voir dans l'émission Joe et Nico sur MCM ou entendre sa voix dans 50 Minutes Inside sur TF1. Car les journalistes, avant tout, touchent à tout, cinéma, séries, musique, jeux vidéo, jardinage, broderie. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Mon invité ce mois-ci, c'est Nico Pratt. Salut Nico, comment ça va?
Ça va super, très très belle présentation. je crois que t'as rien oublié.
Tu peux mettre un veto sur la présentation.
Non, mais en effet, j'aime bien toucher à tout.
Exactement.
Et à tout le monde.
Et tu le fais si bien.
C'est très gentil. Merci beaucoup. Bah putain, je pensais être venu pour rien, mais en fait, je suis ravi. Et je suis très fier parce que je suis très très fan de votre podcast, Thibaut.
je parle à la troisième personne.
On se vous voit ou on se tutoie? Comment ça se passe?
Bah écoute, je propose qu'on se tutoie.
Fan de ton podcast.
Merci Thibaut. Beaucoup. Ça me fait très plaisir de t'avoir. Aujourd'hui, on s'installe au creux d'une décennie familière pour discuter d'une année toute proche de nous. Logée à la fin du XXe siècle, cette année aura su raviver les imaginations à un moment où le monde s'est fait plus réel, plus violent. Une année de nouveaux horizons technologiques, d'adieux à d'anciennes icônes, de grands succès populaires français et de nouvelles voix venues du monde entier. Au programme, le choc Jurassic Park et l'adieu aux muscles de Hollywood. Les visiteurs débarquent sur nos écrans. Une palme d'or au féminin et la carrière atypique de Kenneth Branagh de Hamlet à l'univers Marvel. Bref, aujourd'hui, on discute de l'année 1993.
Meilleure chanson de 1993, la seule.
What is love d'Hadaway? On écoutait ça en 1993, mais c'est vrai, ça. C'est quoi l'amour, Nico? What is love?
Qu'est-ce que l'amour?
Surtout pas cette chanson, finalement.
Je ne sais pas. non, alors, c'est pas cette chanson, super. Qu'est-ce qu'une carrière? Ils en savent pas plus. non, je sais pas
mais
ce qu'est l'amour.
On dansait là-dessus en 93. 93, c'est aussi la première année de la présidence Bill Clinton aux États-Unis. La même année, les footeux célébraient la victoire de l'OM en Ligue des Champions.
Ah, ouais.
Les gamers découvraient le culte Doom. Les plus jeunes regardaient les minicums à la télé. Et les moins jeunes découvraient les aventures de Mulder et Scully dans la série X-Files. Enfin, les romans Virgin Suicides et Trainspotting débarquaient dans les librairies avant d'être adaptés quelques années plus tard au cinéma. Le cinéma, justement, dans les salles en 93, les spectateurs allaient voir courir Harrison Ford dans Le Fugitif et Tom Cruise dans La Firme. Il riait devant Bill Murray dans Un jour sans fin et Robin Williams dans Madame Doubtfire. Il pleurait aussi face à Philadelphia et La Liste de Schindler. Enfin, il découvrait un beau cinéma international avec Kikat, Pedro Almodovar, Journal intime de Nanni Moretti, Sonatine de Takeshi Kitano ou encore Chronos, premier film d'un tout jeune Guillermo del Toro. Et cette année-là, aux États-Unis, Hollywood est en pleine transition, tiraillé entre deux cinémas. D'un côté, les héros d'action et leurs muscles saillants, stars des années 80. De l'autre, un cinéma de l'imaginaire, donc avec les effets numériques comme arme principale. Et un film va les faire exploser, ces effets numériques, et leur donner une place monstre dans la hiérarchie hollywoodienne. Ce film, il est réalisé par Steven Spielberg et il s'appelle Jurassic Park. Vous aurez évidemment reconnu la chanson de Retour vers le futur, non, de Jurassic Park.
C'était le single
de Jurassic Park composé par John Williams. Cette chanson, cette musique culte évidemment, du film non moins culte Jurassic Park, qui est le carton de l'année 1993 au box-office mondial, puisqu'il va réaliser non moins que 912 millions de dollars dans le monde, ce qui est tout simplement le record de tous les temps à l'époque. Et il a été détrôné, il a fallu attendre 97 pour que Jurassic Park soit détrôné au box-office mondial par Titanic, qui réalisera lui simplement le double de ça, hein, tout simplement. Donc Jurassic Park, c'est
Cameron, quoi, toujours très humble.
Toujours ouais. Plus. Jurassic Park, c'est donc le film culte des films cultes. Nico, c'est donc ton film culte.
Je l'ai vu.
Tu l'as vu une fois en 93.
À sa sortie. Bon souvenir.
Tu es donc un immense fan du film. Ouais. C'est peut-être un faible mot de le dire, d'ailleurs, parce que c'est ton film tout simplement préféré. Tu l'as vu combien de fois, Jurassic Park ?
Alors, en vrai, c'est assez difficilement quantifiable. Je pense pouvoir dire sans me tromper qu'on tutoie la centaine.
Vraiment,
mais,
100
mais,
fois.
Oui, mais j'ai écrit un livre sur le sujet, donc forcément, j'ai dû m'y consacrer corps et âme, et j'ai envie de dire, comme toi tu le fais avec ce podcast. Et donc non, j'ai été contraint de le regarder, mais par moments contraint et forcé de le regarder pour entreapercevoir des détails, pour faire des arrêts sur image, voilà, pas forcément, c'était pas toujours des visionnages très cool, et puis je tiens à préciser que je ne regarde pas que Jurassic Park, et que voilà, quand il repasse à la télé, Dieu sait que c'est souvent, en général je regarde autre chose quand même, mais non je l'ai beaucoup vu, et en effet, alors c'est toujours à ce jour mon film préféré, mais il se trouve que c'est aussi le premier film que j'ai vu en salle, et c'est surtout mon premier choc, c'est-à-dire que j'ai un souvenir extrêmement précis d'être allé avec ma tante Valentine, que j'embrasse très fort, voir Jurassic Park. J'avais 7 ans. Je tiens à dire que c'est jeune, 7 ans, pour Jurassic Park, c'est un film qui fait assez peur. Ouais. Mais à l'époque, les parents
on
fumaient
était
en bagnole,
on était sous
Mitterrand, la ceinture n'était pas obligatoire.
L'amiante dans ton apparnage, finalement.
Et j'ai un souvenir très précis de moi dans ma doudoune, trois fois trop grande pour moi, de rentrer dans la salle.
On a des photos de la doudoune.
On a des photos de la doudoune tout de suite, on les regarde. Non, et d'aller au premier rang. Et en fait, c'était un jour de semaine, un après-midi, je devais être déscolarisé à l'époque, et il n'y avait personne. Je vais au premier rang et ma tante me dit « T'es sûr de toi ?» Ouais, j'étais fan de dinosaures, comme tous les garçons de 7 ans. Et je suis remonté en courant et en hurlant à la fin de la première scène, donc.
Ah oui, d'accord.
Quand le raptor qu'on voit à peine dévore un mec. Et à partir de là, voilà, mon destin était tracé. Je serais un dinosaure.
Jurassic Park, donc, c'est cet immense succès mondial, on l'a dit. Et c'est un succès qui va aussi être une révolution technologique. C'est-à-dire qu'il va mettre en avant. C'est aussi le choc de 93. On a sur l'écran des dinosaures qui sont en image de synthèse, en effet numérique, en CGI, comme on dit. C'est les fameux computer generated imagery, les effets spéciaux numériques photoréalistes. Alors, c'est pas le premier blockbuster à faire ça, parce qu'on a eu The Abyss, on a eu Terminator 2, qui était déjà un petit choc l'année précédente. Mais Jurassic Park va être donc ce jalon important des FX. Il va changer un petit peu la donne. Et pourtant, ce qui est fou, en lisant le livre, effectivement, tu l'as dit au début, tu as écrit un livre qui est sorti chez Rokirama sur Jurassic Park.
Excellent
et tu le dis dans ton livre, Jurassic Park aurait pu ne pas être ce jalon important des effets numériques, ce choc numérique, ce choc révolutionnaire. Tu peux nous en parler un peu ?
Alors voilà, c'est ça. À la différence d'un James Cameron avec Terminator 2 qui, objectivement, bah, Cameron fait ça de toute façon à chacun de ses films, voulait repousser les limites et avait pensé son film comme un marqueur temporel en termes d'effets spéciaux, en termes de technologie. Voilà, exactement. Steven Spielberg, c'est différent. Steven Spielberg n'avait pas prévu du tout un usage massif des CGI dans le film. À la base, ça devait se faire tout simplement à l'ancienne, avec des maquettes, voilà, des animatroniques.
Des marionnettes, ou en tout cas des animatroniques.
Mais voilà, exactement.
De l'image par image.
Exactement. Et en fait, ça se passe pendant le tournage commence, tout se passe bien, et il y a une petite équipe de graphistes, d'ingénieurs, en fait, qui travaillent sur le film. Qui, sur leur pause, enfin un petit peu dans leur coin, trifouillent des ordinateurs. Je vous épargne le jargon technique que moi-même je ne maîtrise pas, mais en gros, testent des trucs. Et un jour, ils présentent à Spielberg le résultat de leurs essais. Et c'est les Galliminus. Cette fameuse scène où les personnages réels doivent courir dans la plaine et où tu as des dinosaures en CGI qui, non seulement courent à leur côté, mais qui interagissent avec eux.
Donc eux, ils avaient fait une scène sur leur temps libre avec des effets spéciaux.
Alors, ils n'avaient pas terminé. Non, ils n'avaient pas terminé la scène. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas présenté à Spielberg.
Ils avaient fait des tests.
Mais voilà, la possibilité était là. Et du coup, la grande force de Steven Spielberg à ce moment-là, ça a été de ne pas plonger la tête la première là-dedans. C'est-à-dire que Il a dit, je vais utiliser cette technologie que désormais vous maîtrisez à bon escient. Je vais l'utiliser, en fait, quand je n'aurai pas le choix. C'est-à-dire que le T-Rex qui sort de son enclos, dans la scène peut-être la plus marquante de toutes, il existe. Il est réel, c'est pas des CGI, c'est un animatronique géant qui d'ailleurs ne supportait pas la pluie et donc terrifiait le plateau parce que il se mettait à agir tout seul, en fait, il hurlait seul. Voilà, la grande force de Spielberg, ça a été de dire je vais l'utiliser avec parcimonie, je vais l'utiliser quand je n'aurai pas le choix et je vais l'utiliser quand en fait ça servira le récit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles au final Jurassic Park vieillit mieux que le 3, qui est profondément laid, et même vieillit mieux que toute la saga Jurassic World.
Parce que du coup, il fait un bon usage, un usage intelligent.
Exactement.
Et il n'est pas full CGI, il n'est pas que des effets spéciaux. Et il y a des scènes où il y a des effets spéciaux mécaniques, avec, des, comme tu l'as dit, effectivement, des vraies répliques ou des vrais animatroniques de taille réelle.
Les raptors dans la cuisine.
Voilà, exactement. Et il y a d'autres scènes, effectivement, où c'est des effets spéciaux numériques. Et tu penses que la balance se trouve là. Le génie de Spielberg, c'est de dire... C'est impressionnant ces effets spéciaux numériques. Vous m'avez convaincu, je vais l'utiliser dans mon film alors que c'était pas prévu à la base.
Oui, il y avait une question. Alors pour être
peut-être
tout à fait honnête,
le sixième sens d'un réalisateur finalement
alors,
de bien
ça,
choisir.
C'est
quoi.
Déjà le talent d'un réalisateur, c'est de savoir dire oui, mais aussi de savoir dire non. On va pas se mentir, il y avait pas non plus forcément le budget pour d'un seul coup passer en full CGI.
Et pourtant, alors moi j'avais une autre question parce que du coup là on a vu comment Jurassic Park a failli ne pas être cette révolution technologique finalement.
Alors précision. On ne saura jamais, l'intégralité des films qui rentrent en tournage ont failli ne pas être ce qu'ils sont. Voilà, c'est ça.
Mais du coup, ça s'est joué à des mecs qui ont bossé sur leur temps, leur pause-déj pour donner un truc à voir à Steven Spielberg qui a dit effectivement c'est intéressant parce que toi, tu avais interrogé Phil Tippett qui était le technicien qui était responsable de faire les stop-motion des dinosaures image par image et qui finalement, du jour au lendemain, s'est retrouvé avec beaucoup moins de taf à faire sur le film. Et lui, du coup, il était un peu rancunier, non ?
Non, alors moi, quand je l'ai eu au téléphone, déjà des décennies avaient passé. Non, il n'était pas... C'est pas qu'il était rancunier. C'est-à-dire que, d'une part, il avait à cœur de servir Steven Spielberg et de servir le film, déjà. Tel que lui me le racontait, il était un petit peu circonspect, mais surtout, en fait, premier sentiment qui domine, c'est finalement c'est ce que dit Alan Grant quand il arrive à Jurassic Park. Il dit voilà, notre métier est fini. Et là t'as Jeff Goldblum qui dit non, vous voulez dire éteint.
Ouais.
Et c'est un peu ce qu'a ressenti Phil Tippett sur le moment.
C'est-à-dire que l'ère des effets spéciaux
le cinéma comme on le faisait avant n'existe plus.
Maintenant les ordinateurs arrivent et les ordinateurs arrivent à faire des choses qui remplacent définitivement tout un corps de métier.
Tu peux tout faire
et donc là Jurassic Park effectivement le
Et Jurassic Park est un réel marqueur temporel en ce sens-là, c'est-à-dire que 1993 on va avoir l'occasion d'en parler pendant 7 heures tu m'as dit. On va avoir l'occasion d'en parler. C'est une année de transition et en termes de transition purement technologique, Jurassic Park est un excellent marqueur aussi parce que justement il prend du monde d'avant et il prend du monde de demain.
On parle du fait que Jurassic Park a tenté des choses dans des certaines proportions qui n'avaient pas été faites avant. Et tu le dis un peu dans ton livre aussi. C'est un film qui par certains aspects, notamment la dynamique dans laquelle est Steven Spielberg, qui est par certains aspects un peu risqué. Dans le sens où Spielberg, il n'est pas dans son meilleur état. Il a eu une décennie 80 qui a des très bons films, évidemment, des chefs-d'œuvre, mais aussi des films assez compliqués. Et lui, il n'est pas au summum non plus de sa forme et de son talent. Il n'a pas encore eu son Oscar pour Schindler. Et du coup, moi, je voulais me poser une question. On a une technologie qui était encore un peu balbutiante. On a un réalisateur qui est un petit peu en délicatesse. On a un sujet. Donc là, aujourd'hui, c'est une évidence. Jurassic Park, c'est une évidence. Les dinosaures, que c'est cool. Mais à l'époque, en 93, c'était peut-être pas aussi évident que ça.
Ouais.
À quel point Jurassic Park était un pari risqué pour Spielberg et pour les studios?
Steven Spielberg, à ce moment-là, il sort de Hook, qui n'a été ni un succès critique, ni un succès public. Mais voilà, il sort d'un échec. Et pour le Wonder Boy d'Hollywood, les échecs mineurs, ils sont quand même plutôt rares. Lui était sans doute un petit peu moins confort. En plus, Hook, c'était un vrai projet de cœur. Ensuite, il faut dire aussi, c'est que Jurassic Park fait partie d'un package. Spielberg, il veut faire Schindler. C'est ça qu'il veut.
Ouais.
Jurassic Park, il veut bien le faire, mais c'est pas ce qu'il désire faire. Il désire faire Schindler. Et en fait, ça fait partie d'un deal avec Universal. En gros, tu fais l'un. Si tu fais l'un, t'as l'autre.
D'accord.
Si tu tournes Jurassic Park, qui est un roman de Michael Crichton, qui a cartonné, le potentiel est dingue, Spielberg, des dinosaures, potentiellement Harrison Ford, qui au départ devait être casté dans le rôle d'Alan Grant. Le casting possible de ce film est d'ailleurs assez drôle, mais bon bref. Jim Carrey a failli être dans la peau de Ian Malcolm. Voilà, du coup, ça fait partie d'un package. Et en fait, ce qui donne cette année 1993... complètement folle pour Spielberg, c'est-à-dire où non seulement il signe deux énormes succès publics, deux énormes succès critiques, mais où en plus il dévoile le plein potentiel de ces deux facettes. C'est-à-dire que Jurassic Park est un immense blockbuster. On savait qu'il savait les faire, mais il n'a jamais fait aussi gros, aussi fort, aussi fou. Et il y a Schindler, Schindler qui est un pur film d'auteur d'un noir et blanc absolument sublime, une histoire qui lui est proche en plus. Enfin, c'est l'histoire
qui
de
sa famille.
Qui fait basculer
sa carrière, hein, premier Oscar. Fait...
Exactement, exactement. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Spielberg, il était en plein tournage de Schindler et il devait superviser à distance la post-production de Jurassic Park. Non, il raconte, il dit, mais vous imaginez, j'étais... Dans le ghetto de Varsovie, en train de filmer des enfants morts, et il fallait que je rentre chez moi et retrouver la passion des dinosaures qui s'animent. Il me dit, j'avais pas le cœur à ça. Et donc, en fait, il s'imposait une heure de marche dans le froid, dehors, pour retrouver ses esprits et se mettre dans le bon état d'esprit. Sur le papier, c'était pas forcément un carton assuré, mais c'est surtout que sur le papier, c'est pas ce film-là forcément que Spielberg voulait faire.
Ouais. Et du coup, effectivement, le succès de Jurassic Park, on en a parlé, on a dit les chiffres au début, va ouvrir des horizons pour l'industrie, pour Hollywood en particulier, et va changer un peu l'échelle du spectacle hollywoodien au cinéma, et va favoriser l'arrivée d'un gros genre populaire des années 90 et de la fin des années 90, qui est le disaster movie. Parce que Jurassic Park, c'est certes un film de monstre, mais c'est aussi un disaster movie par certains aspects. Parce que souvenez-vous, les années 90, dans les années 90, on avait tous ces films où tout partait un peu en sucette. Et au top des box-office des années suivantes, on a eu quand même en 96 Twister et Independence Day, qui étaient des films qui, aussi grâce à des effets spéciaux numériques, ben, sont arrivés en tête du box-office et ont amené le public en salle. En 97, on avait Le Monde Perdu, Le Pic de Dante, Volcano. En 98, on a eu Armageddon, Deep Impact et Godzilla. Et bien sûr, le film, le disaster movie des disaster movies, qui doit sans doute un petit peu à Jurassic Park par la nouvelle ampleur, la nouvelle échelle qu'il a donnée, c'est 97, Titanic, bien sûr.
Ouais.
Le disaster movie ultime. Donc Jurassic Park, moi, j'avais dans l'idée qu'il effectivement a peut-être switché et a provoqué cette vague de films à grande échelle des années 90, et notamment par son usage et des effets spéciaux numériques.
Alors, à quelques rares exceptions près, pour moi, ce qui lie ces films, mais ce sont avant tout des concepts. C'est-à-dire que tu remarqueras que tous les films que tu viens de citer, à l'exception d'Armageddon, pas de star au casting.
Ouais.
C'est-à-dire que Leonardo DiCaprio n'était pas une star, Sam Neill n'est absolument pas une star, Laura Dern non plus, Bill Pullman ne l'est pas, Will Smith, Independence Day, c'était une star en devenir, il sortait du Prince de Bel-Air.
Godzilla, il y avait Jean Reno.
Godzilla, il y a Jean Reno et Matthew Broderick. Alors, Matthew Broderick, en termes de star power, il se pose là.
C'est-à-dire que le concept est la star du film plus que les stars eux-mêmes.
Le concept est la star du film. Tu viens pas voir Matthew Broderick, tu viens voir Godzilla. Tu viens pas voir Pierce Brosnan, qui était certes James Bond à l'époque, mais tu vas pas voir Leonardo DiCaprio, tu vas voir le naufrage du Titanic.
Bien sûr.
Et Jurassic Park s'inscrit complètement là-dedans. Encore une fois, il aurait pu en être tout autrement, puisque Spielberg voulait au départ Harrison Ford dans le rôle d'Alan Grant.
Et du coup, c'est marrant parce que là, on parle du fait effectivement que les stars, les acteurs ne sont plus forcément le centre des films, mais c'est plutôt Jurassic Park va switcher ça et va mettre autre chose, un événement, comme tu dis, un concept plus haut que les stars. C'est les concepts qui va vendre le film. Et au même moment, face à Jurassic Park, va sortir, face à ces images, ce futur en images de synthèse, va sortir un autre film, un autre cinéma qui lui dit « Ah non, moi je vais mettre une star, je vais mettre une star internationale au centre de mon film, en tête de mon film, et c'est ça qui va attirer les gens dans les salles. » Et face à Jurassic Park, à une semaine près quasiment, va sortir Last Action Hero de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger. Donc Arnold Schwarzenegger, on ne le présente plus, la star évidemment bodybuildé des années 80. Acteur qu'on aime tous, qui personnifie ces stars des années 80 qui, au début des années 90, en 93 notamment, sont un petit peu marchent moins. On va dire que les Rambo, Rocky, Stallone, Schwarzenegger et les acteurs gros bras marchent moins. Les action heroes, comme on les appelle, sont un peu en berne et se tournent plutôt vers des comédies d'action. Stallone va faire Tango et Cash, arrête où ma mère va tirer. Schwarzenegger, juste avant Last Action Hero, va faire Jumeaux et un flic à la maternelle. Et donc Last Action Hero se pose comme ça, comme, et d'ailleurs Last Action Hero en 93, même devant Jurassic Park, est le plus gros film et le film événement de l'année. C'est le film avec le plus gros budget, genre 85 millions de dollars, donc c'est 20 millions de plus que Jurassic Park. Ouais. Donc c'est l'événement ciné de 93, Last Action Hero avec Arnold. Il y a une statue gonflable de 15 mètres à Cannes, Schwarzenegger donne 90 interviews en 24 heures. C'est une promo à 20 millions de dollars avec Burger King. Il y a eu 7 jeux vidéo à la sortie du film. Bref, il y a plein de caméos et de stars dans le film. Tu l'as dit, il y a eu un deal avec la NASA. Et pourtant, Last Action Hero est un flop au box-office, puisqu'il a donc un budget de 85 millions de dollars, le plus gros budget de l'année. Et il ne fera que 50 millions aux États-Unis, 137 dans le monde.
C'est un excellent film.
Là, on le défonce un peu, mais c'est un très bon film. Et c'est le premier gros flop de la carrière de Schwarzenegger. Donc ça marque vraiment aussi, on a parlé de tournant pour Spielberg, mais c'est le premier gros flop de Schwarzenegger. Donc ça marque aussi un tournant pour Schwarzenegger, qui jusqu'à présent avait enchaîné quand même des succès assez impressionnants. Total Recall, Terminator 1 et 2.
Oui, pas que des succès, mais en gros, il est habitué.
Il n'a jamais eu de flop. Et il sort donc en salle une semaine après Jurassic Park. Est-ce que toi, tu dirais que le flop de Last Action Hero est dû...
Non.
Au succès de Jurassic Park, seulement ?
Non, pas du tout.
Comment t'expliquerais le beat de Last Action Hero ?
Je pense que les gens ont dû penser qu'on se foutait bien de leur gueule, en fait. Parce que
Last Action Hero, pour résumer, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est l'histoire d'un gamin new-yorkais qui est fan de cinéma.
Enfant insupportable, hein, d'ailleurs.
Exactement.
Un enfant, quoi.
Qui est donc fan de cinéma et particulièrement de Jack Slater, qui est un héros de film d'action incarné par Arnold Schwarzenegger. Et un jour, son ami projectionniste lui donne un billet magique, et ce billet magique va lui permettre de littéralement sauter dans le film et de rejoindre Schwarzenegger, Jack Slater dans son film, et il va se retrouver dans le film de Jack Slater et va vivre son aventure avec lui et va révéler du coup à Schwarzenegger qu'il n'est qu'un personnage de film, etc., etc. Donc en pinçant véritablement tous les petits, c'est un film un peu un pastiche, c'est-à-dire que ça se moque un peu des films d'action et des gimmicks de films d'action, genre ah bah tiens le héros meurt jamais, les méchants.
C'est objectivement un pastiche, il ne meurt jamais, il n'est jamais blessé, il tombe dans du mazout, il arrive à l'enlever en 2-2, les flingues ne se déchargent jamais.
Donc c'est du second degré,
c'est complètement du second degré. Mais en fait, John McTiernan, ce qu'il fait dans ce film-là, c'est que il détruit, avec le consentement d'Arnold, il détruit la figure même d'Arnold Schwarzenegger qu'il a contribué à créer, d'ailleurs avec Predator. C'était McTiernan à la réalisation. Mais le film se moque justement de ces films des années 80 dans lesquels les mecs souffrent jamais vraiment. Enfin voilà.
Les chargeurs sont illimités.
Voilà. Non, le film se moque complètement de ce statut d'intouchable. D'ailleurs, il y a une petite phrase que j'ai notée. Dans le film, on dit. Tu ne meurs que si tu ne fais plus d'entrée. Et en fait, c'est ça. Et c'est
un peu prémonitoire pour la section
héros. Ultra prémonitoire. Et en fait, voilà, ça se moque à la fois du statut d'intouchable. McTiernan et Schwarzenegger s'en moquent ouvertement. Mais par là même, il se moque aussi un petit peu du public qui a rempli les salles
pendant 10 ans. Avec ses conneries, entre guillemets.
Ouais, exactement. Attendez, pour moi, c'est beaucoup plus ça qui a tué le film et qui a tué la carrière d'Arnold Schwarzenegger, pardon. Ouais. Beaucoup plus qu'on peut mettre beaucoup de choses sur le dos de Jurassic Park, mais pour moi, Last Action Hero, l'échec vient de là.
Ouais. Moi, ça me fait marrer parce que quand tu vois Last Action Hero dans la décennie 90, et tu sais que par exemple, 3 ans plus tard, tu vas voir Scream qui va faire un petit peu la même chose avec le film d'horreur. Super méta, un peu postmoderne en disant, bah regardez tous vos codes de films d'horreur, je vais les retourner. Last Action Hero fait véritablement ça avec les films d'action. Est-ce qu'il n'est pas arrivé trop en avance véritablement par rapport à une époque qui attendait pas encore ça? En fait, il était trop en avance par rapport à son public d'ailleurs, parce que maintenant Last Action Hero, c'est un film qui est plutôt bien aimé. C'est un film qui a un retour de hype, qui est devenu un petit peu culte, et même si ça a été un échec, les gens sont revenus un peu dessus.
Oui, peut-être qu'il est arrivé trop en avance, mais ça va au-delà du film. C'est-à-dire que 1993, c'est très clairement une année où on a dit McTiernan tue littéralement Schwarzenegger, et la figure de Schwarzenegger qu'il a contribué à créer. Mais la même année, il y a Brian De Palma avec L'Impasse, son plus grand film selon Brian De Palma, mais voilà, qui avec L'Impasse en fait tue Al Pacino, mais surtout tue la figure de Scarface,
ouais,
qu'il a lui-même contribué à créer. Donc c'est une année où
où on tue les icônes un peu.
Ouais, c'est une année où on tue les icônes. Ouais, d'autres naissent, ouais, mais les icônes du temps passé.
Alors après là on parle de l'Action Hero, du flop que ça a fait, du fait que maintenant c'est un film qui est plutôt aimé, ouais, malgré tout, même si ça a été un gros flop en 93. Plein de raisons qui ont été évoquées. La prod du film est compliquée, il y a eu de nombreuses réécritures, le ton du film est effectivement pas clair pour les spectateurs. Le calendrier est serré, un screen test est catastrophique.
Ils ont tellement catastrophique qu'ils ont fait brûler les. En fait, en gros, ils invitent des gens, un panel, ouais, à regarder la première version du film. Et les gens, en sortant, doivent remplir une petite fiche avec des cases. Est-ce que vous avez aimé ça, ça, voilà. C'était tellement catastrophique qu'ils ont brûlé les cartes. Ils ont brûlé les réponses pour que jamais personne ne voit ce qui a été dit.
Et du coup, la raison du flop de Last Action Hero est encore un petit peu nébuleuse. Et Schwarzenegger lui-même avance une idée dans son autobiographie.
Ouais.
Il le dit. Je cite, l'idée d'un film d'action plus chaleureux et non dénué de tendresse semblait dans l'air du temps. Bill Clinton venait de battre George Bush aux élections présidentielles et les médias étaient intarissables sur ces baby boomers qui prenaient le pas sur la génération de la Seconde Guerre mondiale. Reagan, Bush et les Républicains étaient finis, tout comme les films d'action crétins et les conneries machistes. On entrait dans l'ère de Bill Clinton, de Tom Hanks et des films à message. Alors Arnold, il l'affirme, Bill Clinton a-t-il marqué la fin des Action Heroes ?
Oui, c'est. Alors, je suis très mauvais en politique, donc je ne vais pas forcément passer une heure là-dessus, mais en effet, 1993, donc c'est l'arrivée de Bill Clinton au pouvoir, après des années de mandat républicain. Et en effet, la période réganienne est marquée par une Amérique gros bras, tant à l'échelle politique, à l'échelle internationale, que donc au cinéma. Finalement, ces personnages adoptent les codes de leur époque. Et en 1993, le cinéma reflète justement ce changement de prisme, c'est-à-dire que on revient peut-être, en tout cas c'est la promesse, vers une gouvernance plus humaine, en effet vers une Amérique moins machiste, plus ouverte, plus conciliante, plus... voilà.
Des films à message, à Tom Hanks,
oui, voilà, c'est ça.
Philadelphia,
Exactement. Forrest Gump l'année suivante, ouais. Voilà. Donc en effet, Stallone, Schwarzenegger et Bruce Willis ont plus leur place dans ce monde-là. Mais du coup, même le cinéma de l'année 1993 trahit ces idéaux-là. Il y a La Firme, par exemple.
Avec Tom Cruise.
Qui est sorti, voilà, exactement, avec Tom Cruise. C'est un film dans lequel un jeune avocat idéaliste constate qu'en fait, tous les idéaux en lesquels il croyait sont trahis et sont bafoués par la boîte qui l'emploie. Je veux dire, les patrons de Tom Cruise dans La Firme sont très clairement républicains. donc c'est un film aussi qui parle de la trahison des idéaux par les républicains. Mais voilà, il y a beaucoup de films cette année-là qui parlent de ça.
On a vraiment cette année de transition, on en parlait. Bref, voilà qui conclut parfaitement notre premier thème sur l'année 1993.
C'était bien, très bien.
On a parlé de plein de choses.
Bah
et ce n'est pas fini.
Content.
Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière et on va sans plus tarder glisser vers notre second thème de l'émission.
Je viens pas pour la musique. Hein.
Non, surtout, j'ai voulu vous faire mal un petit peu, cher auditeur, avec
cette
année 93. C'est Hera, ouais. Ena Volare, qui est sur la BO, qui est la musique, qui fait partie de la musique originale d'un gros film, de l'un des gros films de l'année 1993. Vous l'avez tous vu, ce film, on l'a tous vu 27 milliards de fois. Ce film, c'est Les Visiteurs, réalisé par Jean-Marie Poiret, avec Jean Reno, Christian Clavier, Valérie Le Mercier et d'autres. Et c'est le plus gros
Marianne Chazelle.
Et c'est le plus gros succès du box-office français en 93. Avec, tenez-vous bien, 13 782 991 entrées, 13 millions de spectateurs, devant Aladdin, devant Jurassic Park, dont on a parlé. Jurassic Park, imaginez-vous, n'est qu'à 6 millions de spectateurs. Et
ce qu'on appelle la loose.
Voilà, désolé Steven.
Désolé Steven.
Christian Clavier est devant toi.
il en parle encore, Steven Spielberg.
Donc 13 millions d'entrées pour le plus gros succès du box-office français, Les Visiteurs. Pour information, c'est le cinquième film français de l'histoire avec le plus de spectateurs. Juste derrière, Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchables, La Grande Vadrouille et Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Et c'est le 14e plus gros succès du cinéma tout pays confondu en France.
C'est Intouchable ou Les Ch'tis, le plus gros carton
c'est bienvenu chez Les Ch'tis, 20 millions de spectateurs et Intouchable, c'est juste 19 millions juste en dessous.
20 millions quoi. 20 millions un tiers des gens du pays. On est toujours 60 millions, ouais, on est 60 millions. Ouais.
On a un peu plus, mais oui, c'était, à l'époque, c'était pas
j'ai
très
bien bossé récemment.
Mais aussi, ce qui est assez rare, c'est aussi un gros succès critique parce que ça a été nommé 9 fois au César. Il y a 9 nominations au César pour le film et une victoire pour Valérie Le Mercier, hein, qui gagne un César de meilleur second rôle, il me semble. On a tous une réplique favorite ou une scène favorite des Visiteurs. C'est quoi, toi, ta petite scène culte des Visiteurs? Comme ça, là, je te dis, Les Visiteurs, tu vas me sortir.
Ouais, c'est jour-nuit. Ça continue de me faire rire.
Jour-nuit.
Jour-nuit. Non, mais en préparant cette émission, on chantait un peu, toi et moi.
Oui, jusqu'au bayou, jusqu'au bayou du Limousin. Et puis c'est un film qui a fait tout. Il y a eu trois, il y a eu deux suites. Il y a eu un remake américain qui s'appelle The Visitors.
Dans mon souvenir, c'est pas un remake, c'est une suite slash reboot. Hein.
Ouais.
Je l'ai vu. Je sais que j'ai vu. Il y a Malcolm McDowell qui joue dedans.
Ouais. Qui joue le Merlin de.
Absolument, oh, absolument. Dans mon souvenir, c'est compliqué.
C'est compliqué. Voilà. Mais oui, Les Visiteurs, c'est Christian Clavier qui se lave au Chanel numéro 5. C'est juste hilarant. Enfin, le film touche vraiment très très juste à plein d'endroits. Et ce qui est fou, c'est que c'est donc l'un des films les plus populaires. Et il a été réalisé par quelqu'un qui est très. Non, mais qui est quand même assez inconnu. On l'a cité Jean-Marie Poiré. Parce que c'est un cinéaste qui est quand même très peu médiatisé. Et qui a une carrière d'ailleurs au ralenti depuis 20 ans, qui fait plus trop de films. Et pourtant, avec 43 millions de spectateurs dans les salles sur ses 14 films, c'est l'un des cinéastes les plus populaires du cinéma français, toute époque confondue, devant, enfin, aux côtés de Danny Boone, de Luc Besson, de Édouard Molinaro, Claude Lelouch, Philippe de Broca. Et il a fait. Enfin, vous connaissez ses films. Les Visiteurs 1 et 2, Le Père Noël est une ordure, c'est lui. Papy fait de la résistance, c'est lui. Les Anges Gardiens, c'est lui. L'Opération Cornet de Bif. Ça ressemble à quoi le cinéma de Jean-Marie Poiré? Enfin, toi qui as vu quand même 13 tous les films de Jean-Marie Poiré.
Ouais, alors ça, c'était entre Jean-Marie nous, Poiré. Mais vas-y, ok. j'ai eu en effet vu tous les films de Jean-Marie Poiré. Comment définir son cinéma? Le cinéma de Jean-Marie Poiré, déjà, est populaire. Il n'y a pas de film clivant.
Ouais.
Tu vois, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ces films, c'est un parterre de stars de la comédie française, connues du public. Et à chaque fois, il y a cette ambition de créer des phrases cultes, des répliques cultes, des personnages cultes. Voilà, tous les films que tu as cités font aujourd'hui partie
d'une patrie. Père Noël est une ordure, Papy fait de la résistance, on connaît tous des répliques.
Non, mais exactement, exactement. Donc déjà, pardon, mais en termes de comédie populaire française, sacré CV. Déjà, on ne peut pas lui enlever ça. Faut bien le dire aussi, c'est que c'est un monsieur qui filme comme un cul, un montage complètement mais abracadabrantesque, avec des y a parfois plus de 1000 plans dans ses films, ça va très très vite, on ne comprend pas, l'ange gardien est quasiment, les anges gardiens est quasiment irregardable.
Donc c'est pas des bons, tu dirais que c'est pas des bons films?
C'est pas des bons films de cinéma.
Et pourtant, c'est des films qui marchent, qui dépassent les millions et des millions de spectateurs. Alors, ce qui n'est pas forcément une gageure, mais.
Je trouve à chacun de ces films de réelles qualités. Alors, pas forcément des réelles qualités, mais de réelles ambitions.
Ouais.
Et mine de rien, Jean-Marie Poiré est un mec qui a eu les moyens de ses ambitions à la fin des années 80 et au début des années 90. C'est-à-dire qu'avec Les Anges Gardiens et avec Les Visiteurs, et dans une certaine mesure Les Visiteurs 2, il avait une proposition de comédie extrêmement chère et visuellement extrêmement bluffante.
En costume, avec des effets spéciaux.
Les effets spéciaux des Anges Gardiens, à l'époque, c'était l'argument marketing. Aujourd'hui, ça a extrêmement mal vieilli et ça n'impressionne absolument plus personne. Les trucs aussi cons que le morphing, c'est vu et revu. Mais voilà, dans une comédie franchouillarde avec Christian Clavier et Gérard Depardieu, il avait aussi cette volonté de claquer du fric et que ça se voit. Et moi, c'est pas pour me déplaire, en fait.
Ouais.
Moi, clairement, c'est pas pour me déplaire. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une ambition visuelle qu'il n'y a pas dans... qu'il n'y a pas chez les Tuches, qu'il n'y a pas dans Red Ding, qu'il n'y a pas dans Rien à déclarer, qu'il n'y a pas dans Chouchou, qu'il n'y a pas... Tu vois, voilà, donc ça...
Il serait là le secret des films de Jean-Marie Poiré, pourquoi il attire autant de personnes? Parce que, enfin, là, entre guillemets, on est un peu railleur sur Jean-Marie Poiré, mais on en avait parlé hors antenne. Jean-Marie Poiré, c'est quelqu'un qui vient quand même d'un certain cinéma de comédie, qui vient pas de nulle part, qui a quand même bossé avec...
Son père était un immense producteur, il s'appelait Alain Poiré, c'est entre autres le producteur des Tontons Flingueurs.
Voilà.
Et Jean-Marie Poiré, il a commencé, il était scénariste pour Audiard et Lautner.
Voilà, donc il y a quand même pire début.
Non, voilà, en fait, pour moi, la raison pour laquelle ça passe encore à la télévision, et la raison pour laquelle on est là en train d'en parler, c'est qu'il avait une réelle ambition populaire, tant, mais à tous les aspects. Alors après, le mec est assez... Jean-Marie Poiret porte toujours une casquette, il en a une très célèbre avec une plaque en métal gravée JMP, donc ses initiales, et un jour on lui a demandé pourquoi il portait toujours sa casquette sur les plateaux de tournage. Et il répondait que c'était pour voir en 16/9e. Et alors, au-delà du fait que je pense que la réponse est très premier degré, moi ça me fait que l'aimer encore plus.
Et surtout l'un de tes films préférés.
Ah ouais, top 10, ouais. Mes meilleurs copains.
Et aussi réalisé par Jean-Marie Poiret, donc ouais. Mes meilleurs copains, qui est un film, peut-être parle-nous-en. Toi, t'as un film préféré que t'es. Peut-être qu'ils sont pas tous bons, les Jean-Marie Poiret, loin de là.
Non, mais, Mes meilleurs copains.
Mes meilleurs copains
est très très bon. C'est un très bon film, très beau film. Très beau film sur les copains, très beau film sur, sur la vie qui passe. Ouais. Enfin voilà, non, c'est génial. C'est vraiment, c'est un très beau film.
Et c'est un méga flop,
ça a fait 200 000 entrées, je crois.
Le nez de Jean-Marie Poiret, c'est de faire aussi des films avec un casting qui, à chaque fois, et puis un groupe d'acteurs et une bande de trognes, de tronches et d'acteurs qui sont toujours un peu impressionnants.
C'est surtout que, encore une fois, il a cette volonté de parler à tout le monde. Et ils vont où, tout le monde? Ils vont voir les films de Christian Clavier.
En 1993, il y a un autre gros succès français qui, lui, pour le coup, fait jeu égal avec Jurassic Park. Il est juste derrière, avec seulement 400 000 petites entrées, juste derrière Le Dinosaure de Steven Spielberg. Et c'est Le Germinal de Claude Berry. Alors, on parlait de films ambitieux, de films à gros budget, de films à gros casting. Et Germinal de Claude Berry, c'est donc cette adaptation du roman d'Émile Zola. C'est un casting assez fou. Gérard Depardieu, Miu Miu, Renaud, Jean Carmé, Julie Henry, Yolande Moreau. Bref, pour l'époque, c'était un casting assez impressionnant et un budget assez fou. Et c'est aussi un autre cinéaste populaire qui est peut-être, pour les gens qui nous écoutent, si je vous dis Claude Berry, c'est peut-être pas effectivement une évidence parce qu'il nous a quittés il y a plus de 10 ans maintenant, mais c'est quelqu'un qui, à l'époque, dans les années 80 et 90, est un gros producteur.
C'est le dernier nabab.
Et c'est aussi un gros réalisateur. C'est un mec qui a quand même réalisé plein de films dont vous avez sans doute entendu parler. Un moment d'égarement, Le Maître d'école, Ciao Pantin, et surtout le diptyque Jean de Florette et Manon des Sources en 87, qui est un peu pour moi le parrain, le film de la trilogie du parrain, mais en français.
Qui gros choc, à chaque fois. Emmanuel Béard qui prend un bain, c'est gros choc.
Et c'est toujours des millions et des millions de spectateurs dans les salles. Et Claude Berry est encore là en 93 avec Germinal. Et comme tu l'as dit, c'est le dernier nabab, Claude Berry. Tu peux nous en parler?
C'était un réalisateur et producteur, et occasionnellement acteur, qui claquait énormément de fric.
Ouais.
C'est-à-dire qui, encore une fois, on parlait d'ambition, alors on va pas les mettre dans la même catégorie, mais c'était un mec extrêmement ambitieux qui n'hésitait pas à y aller all-in, comme on dit au poker. Il gagnait 100 millions de francs, il réinvestissait 110 millions de francs.
Mmh. C'est lui qui a produit Astérix et Obélix, puis son Cléopâtre d'ailleurs.
Oui, voilà, exactement.
Qui a aussi fait 14 millions d'entrées.
Voilà, exactement. Alors lui, à la différence, tu vois, pour faire un lien avec Jean-Marie Poiret, c'est-à-dire que Claude Berry, je pense qu'il ne fantasmait pas du tout les États-Unis.
Ouais.
Claude Berry est français. Claude Berry, quoi de plus français que Germinal?
Ouais.
Non, voilà, c'est un mec qui raconte des histoires françaises et qui ne lorgne pas vers les États-Unis, si ce n'est avec cette idée d'être un grand producteur digne des grands d'hier, digne des Laurentiis, des Anouk.
C'est un producteur français, européen avant tout, qui croyait en des productions de films ambitieuses françaises et européennes. Quoi.
Ouais,
et loin d'être dans l'esprit français-européen, parce que c'est toujours des grandes fresques épiques avec un souffle, la musique de Vladimir Kosma. Enfin, t'as des trucs. Enfin, t'allais voir un Berry à la fin des années 80, début 90, c'était des aventures qui a
plus trop. Et c'était ça aussi la différence, c'est-à-dire que les comédies françaises qui inondent le marché sont des blockbusters d'aujourd'hui. Ce sont des films qui coûtent très cher, mais ça ne se voit pas.
T'as plus d'ambition visuelle, t'as plus de cette ampleur, ampleur belle, et du coup, en fait, de films à Claude Berry, il n'y a plus
qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Les Visiteurs et Germinal, il y a des choses à l'écran.
Ouais. C'est un savoir-faire français.
Ouais.
Il a fait Lucie Aubrac après Germinal, donc c'était toujours comme s'il avait eu une envie de prendre le patrimoine français, genre Pagnol, Zola, etc., etc., et lui donner toute sa grandeur sur le grand écran, et de croire encore au fait que le cinéma pouvait être plus grand que la vie.
Exactement.
Alors que, en vrai, maintenant, quand tu regardes est-ce que tu cherches des films similaires, il n'y a plus de films à grand spectacle français comme ça, avec une ampleur folle à l'écran. Ça n'existe plus. T'as plus de...
Rendez-nous Gérard Houry.
Cette frange du cinéma français n'existe plus. T'as soit des comédies, soit des...
Gérard Houry, t'as plus de Belmondo, et t'as plus de Claude Berry. Et j'irais même jusqu'à dire que t'as plus de Jean-Marie Poiret.
Tu répondais un peu à la question. Où sont les héritiers de Claude Berry aujourd'hui? Il n'y en a plus des masses, en tout cas à cette ampleur-là, et c'est peut-être un petit peu triste.
Non, franchement, j'en vois pas. Personnellement, j'en vois pas. Voilà. Est-ce que c'est triste? Oui,
c'est
oui.
C'est différent, quoi.
Oui, oui et non. Enfin, en fait, le budget ne fait pas la qualité.
Bien sûr.
Mais,
et l'ambition, mais, peut-être.
Ouais.
On parle d'ambition.
On peut regretter ce manque d'ambition visuelle.
Aujourd'hui,
clairement.
Qu'on a pu tellement.
Ouais.
Alors, pour doucement conclure ce deuxième thème sur le cinéma français, on a parlé de plein de choses. Moi, je voulais juste glisser que 93 était aussi une année intéressante pour tout ce qui va suivre, puisque c'est l'émergence du duo Jaoui-Bakri, qui va être un duo d'auteurs phares des années 90, puisque en 93, il signe le scénario de Smoking No Smoking d'Alain René. Et ils signent leur premier film qui s'appelle Cuisine et Dépendance.
Alors ils ne le réalisent pas.
Non, ils ne le réalisent pas, mais
c'est l'adaptation de leur pièce de théâtre.
Voilà. Donc ils signent ce Cuisine et Dépendance, voilà, ils sont au scénario et ils jouent dedans. Et mine de rien, ce duo Jaoui-Bakri va glisser tout au long des années 90, puisqu'ils vont signer Un air de famille, Le goût des autres, et ils vont ramener comme ça des millions de spectateurs en salle et vont récupérer pas moins de 4 Césars en 7 ans, ce qui est quand même pas négligeable pour un duo qui aura comme ça marqué les années 90. Donc c'est intéressant de noter. 93, c'est une arrivée comme ça d'un duo majeur.
Et ce qui est marrant, c'est que Cuisine et Dépendance, c'est l'anti-Germinal en absolument tout.
Voilà.
C'est-à-dire que le générique de Germinal coûte plus cher que le film Cuisine et Dépendance, mais il y a quand même un sens du dialogue, un sens de la répartie, du
c'est
bon
bien
mot.
Écrit.
C'est très très bien écrit, et il y a Bakri, quoi.
Et qu'on aime bien.
Et voilà.
Voilà qui conclut parfaitement ce second thème de l'année 1993 dans lequel on a parlé pas mal de
voir ce qu'on va écouter là maintenant.
Dans lequel on a parlé pas mal de cinéma français et vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière et on va glisser sans plus tarder vers le troisième et dernier thème de notre émission.
Sigh no more, ladies. Sigh no more. Men were deceivers ever. One foot in sea and one on shore. To one thing constant never. Then sigh not so, but let them go. And be you blithe. Converting all your sounds of woe into hey, nonny, nonny.
On aimerait l'écouter toute la journée, cette voix, celle d'Emma Thompson, actrice qu'on aime bien, nous, ici, à Année Lumière.
Très amoureux d'Emma Thompson.
Exactement, et cette voix d'Emma Thompson qu'on aime bien et qui récite du Shakespeare sur la musique composée par Patrick Doyle et qui est l'introduction d'un film qui va être au cœur de notre troisième thème, réalisé par un homme qui va être au cœur de notre troisième thème, puisque ce film, c'est Much Ado About Nothing, Beaucoup de bruit pour rien, réalisé par un homme qui est également acteur, que vous avez vu récemment dans Tenet de Christopher Nolan, que vous avez vu jouer Gilderoy Lockhart dans Harry Potter et que vous avez vu incarner Hercule Poirot dans le récent Crime de l'Orient Express. Cet homme, ce réalisateur, cet acteur, c'est Kenneth Branagh. C'est un acteur irlandais, d'abord comédien de théâtre renommé, qui a eu d'énormes succès au théâtre. C'est un petit génie comparé à Laurence Olivier et à Alec Guinness. Et qui va devenir, à la fin des années 80 et 90, un acteur de cinéma et un réalisateur, qui a réalisé notamment Artemis Fowl pour Disney, qui a réalisé la version...
C'est celui-là que tu
cites. Exactement. C'est son dernier film,
C'est vrai.
La version live de Cendrillon, mais aussi, souvenez-vous, le premier film Thor des studios Marvel, c'était Kenneth Branagh. Pourquoi est-ce qu'on parle de Kenneth Branagh dans ce troisième thème? Pourquoi est-ce que tu voulais qu'on parle de Kenneth Branagh, de Nico, dans ce troisième thème? Alors, tout simplement parce que, oui, en 93, sort Much Ado About Nothing, Beaucoup de bruit pour rien, qui est une adaptation de la pièce de William Shakespeare avec un casting flamboyant, hallucinant. Tenez-vous bien, Denzel Washington, Keanu Reeves, Michael Keaton, Emma Thompson, donc on a entendu Kenneth Branagh, ou encore Kate Beckinsale dans son premier rôle ciné. Mais toi, du coup, tu m'as dit, ouais, il y a ce film qui sort en 93, je veux parler de Kenneth Branagh.
Alors,
très bien, Nico, pourquoi parle-t-on de Kenneth Branagh?
Non, j'ai beaucoup hésité parce que c'est une très très belle année 1993 pour le cinéma britannique. Il y a Beaucoup de bruit pour rien, il y a Au nom du père, il y a Les vestiges du jour, qui est une merveille
avec
Anthony Hopkins. Et 93 est également une très belle année pour Daniel Day-Lewis. Mais Daniel Day-Lewis, une fois qu'on a dit que le mec était adepte d'une certaine méthode, et que c'était un grand acteur, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un grand acteur, Daniel Day-Lewis. Alors que tout le monde n'est pas d'accord pour dire que Kenneth Branagh est grand et ça m'énerve.
Il est peut-être moins connu en plus. Enfin, aujourd'hui, Kenneth Branagh, il est un peu moins médiatisé, un peu moins sur le devant de la scène.
En fait, Kenneth Branagh, il est assez incompris. C'est-à-dire qu'il est à la fois acteur et réalisateur.
Ouais.
Il est homme de théâtre et de cinéma. Il fait des blockbusters, il fait des petits films indépendants. Et c'est un mec, du coup, qui est un peu volatile. Et du coup, je trouve qu'on a tendance à considérer ça comme un manque de constance. Tout simplement. Un petit peu comme un George Miller qui s'essaye tant à Mad Max qu'à Happy Feet.
Ah, il fait pas toujours les mêmes films, donc du coup, on le reconnaît pas.
On n'arrive pas à le mettre, on serait bien incapable de le mettre dans une case, et je pense que ça énerve un peu les gens. Mais en fait, il y a un truc que j'aime énormément chez lui, et il en parlait d'ailleurs dans une interview dans un précédent numéro de Cinématiseur partenaire de cette émission. Jingle. Mais non, en fait, il disait, moi, ce qui m'intéresse au cinéma comme au théâtre, c'est la façon dont un homme lambda peut devenir plus grand que son destin tout tracé.
Ouais.
C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on retrouve chez Artemis Fowl, c'est ce qu'on retrouve même dans
Hamlet,
l'initiative, c'est ce qu'on retrouve dans Hamlet. À chaque fois, il y a cette idée que l'homme ou la femme peut devenir plus beau, peut devenir plus fort, peut devenir plus flamboyant, et il croit en le meilleur des hommes, et c'est ça qu'il met en scène à chaque fois. Il y a ça également dans Dead Again. Il croit à l'humain qui se surpasse à chaque fois. Mais en plus, voilà, pour lui, la vie est théâtrale. La vie est une pièce de théâtre. Il a tout à fait raison, il le dit dans l'interview. Il dit par exemple, à un moment, moi je vais regarder un match de foot et comme tout le monde, d'un seul coup, je vais éructer et je vais être méconnaissable, je vais hurler, je ne vais plus me contrôler. Et en fait, c'est ça la vie. Et c'est ça qu'il met en scène. Et s'il devait y avoir un fil conducteur dans toute sa filmographie, ce serait ça, ce serait l'humain qui se surpasse, qui fait ressortir pas forcément le meilleur, parfois le pire, mais qui en gros échappe à sa destinée. Et moi je trouve ça plutôt beau.
Et bien c'est beau, en tout cas voilà. Tu le dis très joliment, tu le défends très joliment. Et Kenneth Branagh, nous en France, même aux États-Unis, il peut être un petit peu. En États-Unis, c'est un peu comme tu l'as dit, c'est un peu un faiseur. Il a fait Thor, il a fait des blockbusters qui sont pas vraiment très très flamboyants.
Mais c'est ça qui est génial, c'est-à-dire quand il fait Thor, à l'époque déjà, on trouvait ça à la fois cool parce que c'était l'époque où Marvel embauchait des vrais cinéastes. Ouais.
En 2011.
Joe Johnston a fait Captain America, Kenneth Branagh pour Thor. Bon, c'est tout. Mais voilà. Donc, c'était déjà pas mal. Mais c'est ça que je trouve génial. C'est-à-dire que pourquoi il fait Thor ? C'est vrai qu'on se dit, mais attendez, vous êtes un Shakespearean, vous êtes un homme de théâtre. Qu'est-ce que vous allez faire dans un film Marvel ? Il dit, mais attendez, Thor, c'est du Shakespeare.
Ouais. Thor, il y a des trucs à filmer, il y a quelque chose à raconter. Il y a encore cette fameuse question du destin plus gros que...
Il y a la relation avec le père, la relation avec le frère et tout. Donc, finalement, c'est purement logique.
Nous, en France, on le connaît pas trop. En tout cas, il est pas très connu en France. Mais Kenneth Branagh, tu demandes à n'importe qui en Angleterre ou au Royaume-Uni, c'est un peu un joyau de la couronne. Enfin, c'est quelqu'un qui est très connu, que tout le monde aime beaucoup.
Tu peux regarder,
il a quand même été... l'un des quelques acteurs à jouer dans l'ouverture des JO en 2012 à réciter
sans prompteur
tout le monde, sans prompteur, et lui il était là genre tout le monde était là, oh, Kenneth Branagh. On l'a vu dans Dunkerque, et puis oui, là il a récemment, on l'a cité vite fait, mais il a quand même réalisé Les Nouvelles Aventures d'Hercule Poirot, Le Crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil, qui aurait dû arriver dans les scènes où il se met en scène lui-même en tant qu'Hercule Poirot, et il réalise aussi les films. Pour revenir sur le film de 93, beaucoup de bruit pour rien, donc c'est une adaptation, on l'a dit, de Shakespeare, avec un casting de fou, et c'est mine de rien l'un des gros succès de Shakespeare au cinéma, parce que on peut se dire Shakespeare au cinéma, si je vous dis Shakespeare, c'est des gens un peu sévères qui récitent des vers qui sont tristes dans des vieux châteaux, mais en fait pas du tout. Quand on regarde Beaucoup de bruit pour rien, et je vous invite à le voir, c'est une comédie assez virevoltante où les jupons se lèvent haut et tout le monde rigole fort et tout le monde victuaille. C'est un peu René Visiteur, finalement.
C'est ultra généreux.
C'est ultra généreux et c'est assez drôle. Et d'ailleurs, c'est l'une des belles adaptations de Shakespeare au box-office, puisque le film va réaliser 36 millions de dollars, ce qui, pour une adaptation de Shakespeare, est quand même pas mal. Et c'est vrai que ça va être une spécialité aussi de Kenneth Branagh, c'est que dans sa carrière, en plus de réaliser des Disney, en plus de faire Hercule Poirot et de jouer dans Harry Potter, il va réaliser beaucoup d'adaptations de Shakespeare. Il va faire Henri V, il va faire Beaucoup de bruit pour rien, il va faire Hamlet. Tu l'as dit, il va faire un cinéma ambitieux. Et c'est pas complètement anodin qu'il tourne aussi avec Christopher Nolan régulièrement, parce que avant Christopher Nolan, Hamlet, notamment sorti en 97. Hamlet a été longtemps, son film Hamlet a été longtemps le dernier grand film tourné en 70 mm. C'est-à-dire qu'avant que Christopher Nolan l'utilise, le réutilise la technologie pour en faire des films comme Interstellar, pour en faire Dunkerque, pour en faire Tenet en 70 mm et que ce soit mis en avant par IMAX. Hamlet, pendant 20 ans, pendant 15 ans, ça a été le dernier grand projet cinématographique tourné en 70 mm. Et c'est pas étonnant que Nolan, du coup, le réutilise l'acteur dans ses films, puisqu'il le dit lui-même, c'est l'équivalent de Laurence Olivier qui, à l'époque dans les années 50-60, avait créé des ponts entre le théâtre et le cinéma et avait donné toute son ambition du théâtre au cinéma. Et du coup, j'allais te poser effectivement la question, mais tu t'en as déjà parlé avant, c'est quoi un film de Kenneth Branagh pour les gens qui n'ont pas vu ?
Théâtral, généreux et profondément humaniste.
Dans le même interview que tu cites, il disait « Je crois qu'au fil de ma carrière, je n'ai travaillé qu'à une seule idée, le lien entre l'épique et l'intime. » Et c'est vrai, effectivement, c'est peut-être ça que résume aussi le...
Et je trouve que déjà, c'est une noble ambition de cinéma et c'est même une noble ambition de vie, quoi. Ouais. Cette idée que notre vie peut être faite de mille choses, qu'on peut se révéler à chaque instant et qu'on est potentiellement destiné à quelque chose de grand, même si on ne s'en doute pas. Moi je trouve ça beau.
Kenneth Branagh met ça en lumière magnifiquement. Ouais. Est-ce qu'on pourrait conseiller d'autres films de Kenneth Branagh?
Absolument.
À nos auditeurs.
Alors je conseille Dead Again, 1991. Dead Again, c'est son deuxième film en tant que réalisateur. Kim Matt Thompson, qui est sa femme à l'époque. Ouais. C'est super bien. C'est sur OCS en ce moment, pour info. Et c'est mortel.
C'est un thriller, comédie,
un peu mystique. C'est vraiment, c'est très très beau en plus. Non, c'est super. Et alors, pour le coup, on n'est pas très nombreux à le défendre. Je conseille Frankenstein.
Avec Robert De Niro,
1994. Normalement, Francis Ford Coppola devait réaliser Frankenstein et Dracula. Et finalement, il n'avait pas la force pour faire le diptyque. Donc finalement, il a refilé Frankenstein à Kenneth Branagh, qui en a fait un truc assez over the top, on peut le dire. Théâtral, encore une fois, mais je trouve ce film vraiment génial. Il a eu de très mauvaises critiques, encore aujourd'hui il est pas très apprécié. C'est un film en plus, la promo a été compliquée parce que il avait d'abord proposé le rôle principal féminin à Emma Thompson, sa femme, qui finalement est partie sur un autre projet, donc il a embauché Helena Bonham Carter et finalement il a fait plus que l'embaucher.
Il a trompé Emma Thompson avec Helena Bonham Carter.
Donc du coup, la promotion du film ne tournait qu'autour de ça, c'était un petit peu compliqué.
C'est à l'époque où les studios voulaient faire des adaptations de leur Universal Monsters, mais en mode prestige, et il y a eu Dracula avec Coppola. Et du coup, comment ne pas avoir du prestige en prenant Kenneth Branagh pour faire Frankenstein? Est-ce que c'était un peu ce que voulait faire aussi Marvel en prenant Kenneth Branagh pour faire Thor? Est-ce qu'ils voulaient pas aussi avoir un réalisateur un peu prestigieux pour emballer leur dieu nordique?
Marvel au début, j'ai aucune envie de parler de Marvel, mais
on n'est pas obligé de parler. On peut revenir sur Kenneth Branagh.
Ouais, je veux bien.
Ben voilà, mais du coup, on voulait s'attarder sur Kenneth Branagh parce que du coup, effectivement, il a cette carrière un peu atypique, avec ses grands films, ses grosses productions, ce cinéma shakespearien. Et comme on l'a dit, c'était aussi un acteur, un réalisateur qui valait le détour et dont on avait envie de parler.
Exactement.
Et donc on vous a donné comme ça quelques petites suggestions.
Vous voyez le Frankenstein, vraiment, il est sur Netflix, je crois.
Et voyez Beaucoup de bruit pour rien, qui est un film vraiment très très plaisant. Et Antoine ne dira pas le contraire.
Et pour la petite anecdote, le film pue la classe à tous les étages. Il y a un casting de dingue. Et il y en a évidemment un qui est nommé aux Razzie Awards. Je vous le donne en mille, c'est Keanu Reeves.
C'est peut-être le seul mauvais acteur du lot. Mais c'est Keanu Reeves, donc bon voilà.
Très mauvais acteur, si je peux me permettre. Mais bon, bref.
Voilà qui conclut notre troisième et dernier thème. Mais comme d'habitude, on va pas se laisser là, on va pas se quitter là. Et on va glisser sans plus tarder vers notre petit instant recommandation avec le tour du monde de l'émission. Et le tour du monde, hein, c'est comme vous le savez, notre moment qui va nous permettre de parler des films dont on n'a pas pu parler dans l'émission, qu'on n'a pas pu évoquer dans l'émission, nos petites recommandations. Et toi, tu es un peu comme le Père Noël, Nico. Tu es venu avec plein de canaux dans ta hotte, recommandations.
J'ai 13 films, j'avais quand même en conseillé 2-3.
Et donc, tu es venu avec plein de films. Quels est le film peut-être que tu as envie de recommander en premier dans ces années 93?
King of the Hill de Steven Soderbergh, qui est un film qui n'a pas eu qui n'a eu aucun succès, qui est totalement passé inaperçu, qui donc est sorti 2 ans après Sexe, mensonge et vidéo.
Palme d'or.
Palme d'or, plus jeune palmé de l'histoire, et son premier film, donc il commençait fort. L'histoire, c'est l'adaptation d'un roman que je n'ai pas lu, c'est l'histoire d'un gamin durant la Grande Dépression, qui tente de survivre comme il peut dans son petit bled américain. Sa vie défile entre ses parents qui ont du mal à joindre les deux bouts, sa mère qui est hospitalisée, les filles à l'école, c'est pas simple, son petit frère est envoyé en pension, ils vivent dans un motel minable, ils doivent échapper au mec qui demande le loyer, tout simplement. C'est extraordinairement beau, divinement joué, vraiment, ça vise juste à chaque fois, et ça fait du bien, ça fait un bien fou.
En plus, il a
vraiment
30 piges, Soderbergh,
il est
plutôt jeune. Quoi.
Très, 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 très beau film.
King
très
of the
film.
Hill de Steven Soderbergh,
ouais, exactement.
L'une des petites recos de Nico pour cette année-là. De mon côté, moi, je vais vous conseiller La leçon de piano de Jane Campion, qui est mine de rien la palme d'or du Festival de Cannes en 93, ex aequo avec Adieu ma concubine du chinois Chen Kaige, et qui est la seule et unique palme d'or féminine,
encore aujourd'hui.
Et qui, pour info, va repartir aussi avec 3 Oscars, dont la meilleure actrice de second rôle pour Anna Paquin, qui prend un Oscar à l'âge de 11 ans. Hein, parce qu'à l'époque, elle est toute petite. Hein, c'était avant True Blood et avant X-Men. Et à 11 ans, elle repart avec un Oscar. Je vous conseille d'aller sur YouTube et de regarder la cérémonie et le moment où elle reçoit son Oscar. C'est extrêmement adorable. Et pour revenir au film, donc, La leçon de piano, ça raconte au 19e siècle l'histoire d'Ada, une jeune mère de famille et de sa fille qui se retrouve au fin fond de la Nouvelle-Zélande pour aller vivre avec un homme. Et dans le voyage depuis l'Europe, elle a négocié à Ada de ramener tous ses meubles et notamment un piano. Et malheureusement, quand elle arrive, son piano a été vendu à un voisin un petit peu rustre et un peu bourru. Et elle va devoir, qui est joué par Harvey Keitel. Nico, tu veux dire quelque chose sur Harvey Keitel peut-être?
Oui, dans le film, Harvey nous montre sa Keitel. Voilà.
merci beaucoup Nico. Et du coup, effectivement, Harvey Keitel joue ce voisin russe qui apparaît dans Le plus simple appareil. Et Ada va devoir récupérer son piano auprès de ce voisin, note par note, pièce par pièce, et va juste se plier un peu aux fantaisies de ce voisin. Et bref, je voulais en parler parce que simplement, c'est un film tout à fait sublime, et le terme de poésie, de poétique est souvent un terme un peu dévoyé, mais le film est carrément ça. C'est
la
carrément ça.
La musique
est
folle.
La musique de Michael Nyman est folle, le
magnifique.
Film est d'une poésie folle, et la Nouvelle-Zélande est un personnage à part entière. Ouais. Elle est sauvage, elle est indomptée, et elle traduit tout le tumulte intérieur un peu des personnages qui sont tous pris au piège de leurs conditions, donc elle de son éducation, Harvey Keitel de son illettrisme. Triste, il est un peu béné, il aimerait parler à cette femme comme elle aimerait qu'on lui parle, la morale de l'éducation, bref, tous ces non-dits là sont encapsulés par cette nature et par la réalisation de Campion. Bref, c'est un film qui est sublime, vraiment, j'insiste sur le mot poésie. La leçon de piano, c'est un film à voir, et encore une fois, c'était la palme d'or de cette année-là. C'était ma petite recommandation pour cette année 1993. Tu voulais encore nous recommander 2-3 films, Nico?
17, moi, mais 2-3, très bien.
Non, mais en plus, vas-y.
Panique sur Florida Beach, de Joe Dante, qui fait suite donc au carton des Gremlins. C'est un film un petit peu comme King of the Hill d'ailleurs, où le temps défile, tu vois, c'est presque un petit peu vaporeux, il n'y a pas de grand climax, il n'y a pas de grand événement perturbateur, c'est un peu flottant, voilà. Ça se passe dans une petite bourgade américaine dans laquelle voilà, il y a John Goodman qui est un producteur et réalisateur gras du bide, un peu grandiloquent, qui arrive pour présenter sa dernière œuvre. Et on suit tout simplement des adolescents qui, pendant la crise militaire des missiles à Cuba, vivent leur vie d'adolescent, tout simplement, entre passion du cinéma et amour des jeunes filles en fleurs. C'est une ode au cinéma, c'est sublime.
Une lettre d'amour au cinéma.
C'est un film très peu connu de Joe Dante, coincé un peu entre les Gremlins et Small Soldiers. C'est sublime, c'est vraiment, vraiment, vraiment sublime. Et dernière petite recommandation, si tu me le permets,
c'est un film
qui s'appelle Le Club de la Chance, The Joy Luck Club en anglais. C'est une production Oliver Stone. C'est un film qui raconte sur plusieurs générations le destin de femmes vivant aux États-Unis, d'origine asiatique, mais vivant aux États-Unis. Ça parle de leur vie passée, de leur douleur, de leur joie de mère, leurs troubles d'épouse, voilà. Encore une fois, c'est marrant, mais les 3 films que je recommande sont des films où, encore une fois, il n'y a pas de grand élément perturbateur, il n'y a pas de climax, c'est vraiment où le temps se déroule, tout simplement. Et c'est un film qui est passionnant parce que c'est un film qui aurait pu tout changer s'il avait eu du succès. C'est-à-dire que le casting est majoritairement, voire intégralement, d'origine asiatique. Ouais. Pareil derrière la caméra. Et en fait, La dernière fois qu'il y avait eu un film avec un casting majoritairement asiatique, c'était 25 ans plus tôt. Et la dernière fois qu'il y en aura un, ce sera 25 ans plus tard avec Crazy Rich Asians.
Ouais.
Et en fait, à chaque fois, alors Crazy Rich Asians, on va voir si ça donne quelque chose parce que ça a bien marché. Mais depuis, ça n'a pas non plus été la folie. Bref. Mais non, voilà, c'est un film, c'est un très très beau film. Et en plus, même si c'est une considération économique qui aurait pu changer les choses
à Hollywood
en termes de représentation, ouais. Ça n'a malheureusement pas été le cas et c'est bien dommage.
Et ça a été un beau succès. C'est un film, je sais que c'est un film culte dans certaines, c'est un film de cœur dans certaines, oui. Pour certaines catégories de
oui,
personnes.
Oui, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas eu un succès suffisant
bien sûr.
Pour changer les mentalités.
Et comme tu le dis, pendant 25 ans, ça a été le succès. C'est, enfin, le plus gros succès pour un casting entièrement asiatique dans le cinéma américain, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est un film que je plus sois, parce que c'est un film formidable avec une belle fresque humaniste, tu l'as dit.
Exactement.
Merci beaucoup Nico pour toutes ces recommandations.
Merci
que tu
à vous
dans,
Thibaut.
Dans tes poches. Encore voilà qui conclut cet épisode d'Année Lumière, c'est terminé déjà.
C'était super.
Consacré à 1993. On a parlé de beaucoup de choses dans cette émission. On a parlé d'énormément de choses. Du choc hollywoodien et générationnel entre Jurassic Park et Last Action Hero. Des grands succès français comme Les Visiteurs et Germinal. La carrière du fascinant acteur et réalisateur irlandais Kenneth Branagh. On vous a aussi recommandé La Leçon de piano de Jeanne Campion, mais aussi King of the Hill de Steven Soderbergh, Panique sur Florida Beach de Joe Dante et Le Club de la Chance de Wayne Wang à l'instant. Nous voici arrivés à la fin de l'émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais une nouvelle fois remercier mon invité Nico Pratt. Merci beaucoup d'avoir été parmi moi et parmi nous.
Parmi toi. C'était un bonheur, je vais te dire, non seulement... alors, je suis pas fan de l'animateur, mais très fan du podcast.
Ah, je suis quelqu'un d'horrible.
C'est vraiment... Dieu sait que il y a beaucoup de podcasts ciné, je crois. Mais voilà, c'est vraiment un des meilleurs, c'est passionnant, c'est travaillé, c'est érudit. Jusqu'à présent, tu choisissais très bien tes invités. franchement, c'était un plaisir et j'irais même jusqu'à dire un honneur. Et tout de suite, à Daway.
J'en profite avant de vous laisser. Merci beaucoup, Nico. Ouais. Je remercie également, bien sûr, avant de vous quitter, les partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur, bien sûr, et Tsugi Radio qui nous accueille ici dans le studio de la Villette à Paris. Remerciement tout particulier à Antoine, à la réalisation. Merci beaucoup Antoine. Et enfin, un ultime merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode et cette émission. Votre soutien et vos retours me font toujours immensément plaisir. Bref, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain, en 2021, pour un nouvel Année Lumière. Et d'ici
ce sera
là...
quelle année,
Alors, sans vous teaser, peut-être, on parlera peut-être des origines ou de tout début du cinéma, puisqu'on ira peut-être faire un tour au 19e siècle.
Allez, il y a beaucoup de tendances.
Beaucoup de tendances au 19e siècle, beaucoup moins de Spielberg et de Kenneth Branagh, étonnamment.
Des choses assez simples, des trains.
Bref, un joli programme pour le début de l'année 2021, toujours en train d'écouter Année Lumière. D'ici là, continuez à voir des films. Salut.
Salut.